Laudetur Jesus Christus.
Le pape François plaide pour un modèle de relance économique inclusif, juste et durable face aux ravages que la pandémie génère. Il explique sa vision dans un message adressé à l'Assemblée de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Le joug de la répression se renforce en Birmanie où des personnalités sont traquées par la junte en raison de leur position pro-démocratie. Cette répression s'exerce aussi à l'étranger. L'ambassadeur birman à Londres en a fait les frais. L'euthanasie en discussion chez les députés français. Un projet de loi est examiné aujourd'hui et propose d'autoriser une assistance à mourir aux adultes souffrant de pathologies graves. Un comble pour Tuc d'Hualderville, pour qui cette période appelle justement au respect de la vie et non à la promotion de la mort, il nous dira. Nous reviendrons enfin sur l'affaire présumée de la révolution de Palais qui a bouleversé la Jordanie ces derniers jours. Tout est terminé, affirme le roi Abdallah qui se veut rassurant. Reste que de nombreuses questions demeurent et que le royaume risque d'en porter les traces.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Le pape s'adresse donc au sommité de la finance mondiale. François a envoyé un message hier aux participants de l'Assemblée de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, qu'il avait d'ailleurs sollicité en ce sens. Dans le sillage de l'économie de François, de sa pensée sociale et inclusive développée depuis le début de son pontificat, le pape y plaide pour un plan de relance mondiale axé sur le bien commun universel et tourné vers les plus faibles, Delphine Allaire.
C'est cela, Manuela. Dans cette lettre, le Saint-Père revient amplement sur la série de crises que traverse le monde en ce moment. Toutes sont interdépendantes, tout comme le sont les solutions. Ainsi, François défend l'élaboration d'un modèle de relance plus inclusif, durable, égalitaire. Le pape insiste sur les personnes en marge, exclues du monde financier, et rappelle combien la pandémie montre que personne n'est sauvé s'il reste seul. Pour faire face, il faut donc, selon le Saint-Père, créer des formes nouvelles et créatives de participation sociale, politique, économique, sensible à la voix des pauvres. Le pape qui interpelle ensuite cette assemblée d'experts. Vous savez bien dans vos métiers ô combien la confiance née de l'interconnexion entre les personnes est la pierre angulaire de toute relation. Générer donc de nouvelles institutions de gouvernance mondiale attentives aux pauvres pour construire un nouveau réseau de relations internationales, c'est la demande du pape qui en rappelle la finalité ultime, viser le bien commun universel jusque dans les cas les plus concrets comme l'allègement de la dette des pays pauvres, une nouvelle fois plaidée par le souverain pontife Manuela.
Merci beaucoup Delphine pour toutes ces précisions. Et puis justement, lors d'une autre réunion virtuelle, les argentiers du G20, ministres des Finances et banquiers, ont convenu donc de repousser de 6 mois le moratoire sur la dette des pays pauvres dont les économies subissent de plein fouet les effets de la pandémie. C'est aujourd'hui que Joe Biden doit présenter son plan pour limiter les armes à feu. Les fusillades de masse endeuillent fréquemment les États-Unis, mais aucune administration n'a jusqu'ici pu ou voulu contrer le phénomène. L'annonce de 6 mesures est donc attendue aujourd'hui par le président américain. Son entourage précise qu'elle ne constitue que de premières étapes. Pas de trêve dans la répression en Birmanie. La junte traque sans relâche ses opposants et ces dernières heures, ce sont des personnalités birmanes qui sont tombées sous la main de fer des militaires. Cette répression se joue également à l'étranger puisque l'ambassade birmane à Londres a été prise d'assaut hier soir par des proches du régime militaire de Rangoon. Les précisions d'Olivier Bonnel.
Pang Takon est l'une des personnalités parmi les plus célèbres en Birmanie. Suivi par 1 million de fans sur Facebook et Instagram, ce mannequin, également acteur et chanteur, a vu ses comptes suspendus. Il est désormais placé en détention après avoir été arrêté hier chez sa mère. Pang Takon avait été l'un des premiers à dénoncer le coup d'État du 1er février. Comme lui, 120 célébrités birmanes sont sur une liste noire dans le collimateur de la junte, des personnalités du monde des arts ou des journalistes. Alors qu'au moins 12 civils ont encore été tués hier par les forces armées, la main de fer des militaires ne se relâche pas, bien au contraire. En témoigne la scène hier soir à l'ambassade de Birmanie à Londres, qui a été occupée par des partisans de la junte, empêchant l'actuel ambassadeur de pouvoir accéder au bâtiment. Il y a quelques semaines, le diplomate avait apporté son soutien à Aung San Suu Kyi, aujourd'hui emprisonnée. Le chef de la diplomatie britannique a dénoncé ce matin l'intimidation des militaires birmans suite à ce coup de force, mais a été contraint de notifier la fin du mandat du représentant birman dans son pays. Londres, qui a par ailleurs réitéré son appel à la fin des violences épouvantables en Birmanie, et un rétablissement rapide de la démocratie dans le pays.
Olivier Bonnel. Londres qui condamne les émeutes qui secouent depuis plusieurs jours l'Irlande du Nord, signe de la colère des unionistes qui s'estiment trahis par la monarchie à cause du Brexit. Boris Johnson se dit préoccupé par ces violences. Les différends se résolvent par le dialogue et non la criminalité, a-t-il tweeté. Le Parlement local a été convoqué en urgence cet après-midi. En France, les députés français replongent aujourd'hui dans le débat sur le droit à l'euthanasie. La proposition de loi portée par le député Olivier Falorni instituerait un droit à une fin de vie libre et choisie. Elle est appuyée par une majeure partie de l'hémicycle, même si plusieurs députés de La République En Marche et des Républicains s'y opposent. Au sein de la société française et de l'Église, les protestations se font aussi entendre. C'est le cas de Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita et fondateur de l'association à bras ouverts. Il dénonce une proposition funeste dans un contexte qui appelle au respect de la vie.
La réouverture d'un débat sur l'euthanasie qui est imposée par des parlementaires en pleine pandémie est particulièrement choquante à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c'est une proposition parlementaire qui arrive alors que les soignants se battent pour sauver des vies. Et voilà qu'on laisse entendre que l'euthanasie est la solution. On s'aperçoit aussi que le gouvernement français a tardé dans l'annonce de cette loi tant attendue de développement des soins palliatifs et il a même renoncé totalement pour le moment à reporter sine die la loi grand âge autonomie qui est absolument majeure bien sûr pour accompagner des personnes âgées. Il y a quelque chose donc on peut dire d'indécent dans l'ouverture de ce débat, même si a priori la loi ne sera pas votée. Il y a une pression très forte médiatique et c'est un message terrible qui est adressé aux personnes souffrantes qui se sentent très vite poussées vers la sortie. C'est l'exemple belge qui nous le montre. C'est aussi un exemple terrible donné à des personnes qui souffrent de maladies que finalement on désigne comme éligibles à l'euthanasie, comme si il y avait des situations de vie où l'euthanasie était la solution qui s'impose. Et on va très vite, finalement, d'une prétendue liberté à un devoir.
Des propos recueillis par Adélaïde Patrignani et à retrouver sur notre site vaticannews.va. Le président ukrainien attendu dans l'après-midi dans l'est du pays sur la ligne de front du Donbass. Volodymyr Zelensky dit vouloir se tenir aux côtés de l'armée, la même où des heurts quotidiens l'opposent aux séparatistes pro-russes, car la guerre larvée qui sévit dans cette région depuis 2014 a repris de la vigueur. La sédition est terminée, c'est le roi de Jordanie qui l'affirme. Abdallah II précise que le prince Ramza et sa famille se trouvent chez lui sous sa protection. Ce dernier, rien de moins que le demi-frère du monarque, est accusé d'avoir voulu le renverser, mais lui nie farouchement. Une vingtaine de personnes sont aujourd'hui sous les verrous en attendant les résultats de l'enquête qui devrait permettre d'éclairer les zones d'ombre de cette affaire qui a secoué le royaume hachémite. La correspondance régionale de Valérie Ferron.
Dans ce message, le roi Abdallah II confirme que son demi-frère, le prince Hamza, est avec sa famille dans son palais, sous sa protection, montrant ainsi que la crise a été résolue dans le cadre familial. Il confie que les événements de ces derniers jours n'ont pas été les plus dangereux pour la stabilité de la Jordanie, mais très douloureux pour lui à titre personnel en tant que tuteur de la famille hachémite. Le souverain réaffirme cependant, comme ses ministres avant lui, que ce qu'il a appelé la sédition a été menée depuis l'intérieur de la famille, mais également depuis l'extérieur, sans donner plus de précision, laissant donc chacun spéculer sur ses forces extérieures, voulant déstabiliser le royaume. Tâche d'autant moins aisée que le procureur a imposé une censure totale sur cette crise sans précédent. Une vingtaine de personnes sont toujours en prison en attendant les résultats de l'enquête en cours, qui, a promis le roi Abdallah II, seront traitées dans la transparence. En résolvant la crise au sein de la famille hachémite, le roi Abdallah II laisse cependant en suspens la crise politique qui pourrait déclencher de nouvelles tensions selon les analystes tant que des réformes démocratiques ne seront pas entreprises. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Aujourd'hui, 8 avril, Israël s'est figé pendant 2 minutes pour le Yom HaShoah, le jour du souvenir en hommage aux 6 millions de juifs victimes du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien avant la déclaration Nostra Aetate, le Saint-Siège s'était montré attentif aux exactions antisémites. C'est ce qu'affirme Mgr Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États. S'appuyant sur les archives de la secrétaire d'État, il rappelle que déjà en 1919, circulait entre les murs du Vatican la ferme conviction que le principe de fraternité ne pouvait être piétiné par la fureur antisémite. L'ambiance se tend sensiblement au Bénin où la police est intervenue aujourd'hui pour disperser des manifestants. Depuis quelques jours, le pays est traversé par une onde naissante de protestations contre le président Patrice Talon, accusé de confisquer l'élection qui va se dérouler dimanche. Lui brigue un deuxième mandat, mais aucun parti d'opposition ne sera représenté. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est Olivier Bonnel que vous retrouverez ce soir pour le journal de 18h. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous.